Bonsoir, frères et sœurs.
Bonsoir.
Premier d'art, veuillez prier pour nous recommander la grâce du Seigneur, s'il vous plaît.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir encore une fois pour ce moment que tu nous donnes. Oui, Seigneur Dieu, nous t'avons dit merci pour la journée que tu nous as donnée, pour le souffle de vie que tu as donné à chacun de nous. Et merci, Seigneur Dieu, maintenant tu nous appelles à ce rendez-vous. Nous te disons merci. Merci parce que si toi tu veux que nous soyons là, parce que tu as quelque chose à nous dire. C'est pour ça, Seigneur, que nous voulons nous apprêter pour t'écouter. Mais grand Dieu, nous voulons te dire pardon. Tu as vu comment nous avons marché depuis le matin jusqu'à maintenant. Si nous n'avons pas eu l'occasion de te dire pardon avant de nous connecter, Seigneur, de nous profitons de cette occasion pour nous dire, pour te dire que pardonne-nous. Nous ne sommes pas dignes de toi. Peut-être nous avons bronché en pensée, en parole, par omission, même dans notre façon d'agir. Seigneur Dieu, nous voulons reconnaître notre faiblesse. Parce que, Seigneur Dieu, nous voulons que tu puisses faire de cette réunion une réunion sainte, une réunion de tes enfants. Merci, grand Dieu, parce que toi, tu es le pardon. Parce que toi, tu es miséricordieux. Parce que tu as dit dans ta parole, quand nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, toi, tu es digne, fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Merci pour cela. Remplis chacun de nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que nous puissions comprendre parfaitement ta parole. Que nous ne voyons pas que la parole vienne du modérateur. Que nous ne voyons pas que la parole vienne de celui qui a parlé. Mais la parole vient de toi, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, être conduits par toi. Utilise ton enfant, le pasteur Célé, qui va nous diriger ce soir. Merci pour tous ceux-là qui vont prendre la parole. Et merci pour ceux-là qui ne sont pas encore là, qui vont nous rejoindre, Seigneur. Merci, parce que toi, tu es merveilleux. Nous te prions aussi pour nos bien-aimés qui vont nous suivre à la radio et qui vont suivre même à différents différés, Seigneur Dieu. Fais ce que tu veux dans tout ce que nous allons faire. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Amen. Merci bien pour la prière, Papa Médard. Merci. Bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter, que ce soit sur le plateau FIMES ou que ce soit à la radio. Soyons tous bénis dans la présence du Seigneur. Nous allons passer un moment inoubliable avec le Seigneur. Sa parole est toujours, a toujours une puissance. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Quand nous nous exposons devant la parole du Seigneur, et les Écritures nous disent, heureux ceux qui méditent la loi du Seigneur, jour et nuit. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment si précieux. Je vais demander à notre sœur Jacqueline de nous lire le texte. Est-ce que tu es en mesure, là où tu es, de nous lire le texte, ma sœur Jacqueline, de Ézéchiel, chapitre 39, du premier verset jusqu'au verset 16e? Jacqueline, tu me suis?
Oui, pasteur.
Est-ce que tu es à mesure de nous lire là où tu es?
Oui, pasteur.
Ok, allez-y, merci beaucoup.
Je lis la parole Ézéchiel 39, de 1 à 23, je crois.
Non, 1 à 16.
1 à 16?
Oui.
Amen, je suis dans Louis II. Quant à toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog, tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai venir de l'extrême nord et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. Je fracasserai l'arc qui est dans ta main gauche et je ferai tomber les flèches qui sont dans ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, ainsi que toutes tes troupes et les peuples qui t'accompagnent. Je te donnerai en guise de nourriture aux rapaces de toutes sortes et aux bêtes sauvages. Tu tomberas à la surface des champs. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu sur Magog et sur ceux qui habitent en toute sécurité les îles. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple, Israël, et je ne laisserai plus déshonorer mon saint nom. Les nations reconnaîtront alors que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Tout cela vient, cela arrive, déclare le Seigneur. L'Éternel, c'est le jour dont j'ai parlé. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils allumeront un feu et brûleront le matériel de guerre, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les fences et les lances. Ils pourront en faire du feu pendant 7 ans. Ils n'auront pas à prendre de bois dans les champs, ni à en couper dans les forêts, car c'est avec le matériel de guerre qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, déclare le Seigneur l'Éternel. Ce jour-là, je donnerai à Gog un endroit qui lui servira de tombe en Israël, la vallée des voyageurs à l'est de la mer. Elle fermera le passage aux voyageurs. C'est là qu'on enterrera Gog et toute sa foule bruyante, et on appellera cette vallée Vallée de la foule bruyante de Gog. La communauté d'Israël les enterrera afin de purifier le pays et cela durera 7 mois. Toute la population du pays les enterrera et ils y gagneront en réputation. Le jour où je manifesterai ma gloire, déclare le Seigneur l'Éternel. Puis ils choisiront des hommes qui parcourront sans cesse le pays et qui enterreront avec l'aide des voyageurs les cadavres qui restent encore à la surface de la terre. Ils commenceront à prospecter le pays pour le purifier au bout de 7 mois. Les inspecteurs parcourront le pays, et quand l'un d'eux verra un ossement humain, il mettra un repère à côté de lui jusqu'à ce que les fossoyeurs aille l'enterrer dans la vallée de la foule bruyante de Gog. Il y aura même une ville appelée Amona, c'est ainsi qu'il purifiera le pays. Amen.
Amen. Amen.
Merci beaucoup, ma soeur Jackie, pour la lecture bien faite. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Frères et sœurs, nous sommes en Ézéchiel au chapitre 39, du premier verset jusqu'au verset 16e, et il s'agit du combat contre le peuple de Dieu, une armée bien sûr, super armée. Dans le sens que l'armement que cette armée possède, vous pouvez vous imaginer, c'est un armement quand le peuple de Dieu va prendre cet armement, ils feront 7 ans sans aller chercher du bois pour voir quelle était la quantité des armes que cette armée possédait. Il n'y avait rien de comparable avec ce que le peuple de Dieu avait. Rien du tout. Et dans le premier verset, nous voyons aussi qui était le roi Gog. Ce n'était pas n'importe quel roi. C'était un roi qui régnait sur Roche, qui régnait sur Meshech, qui régnait sur Tubal. C'était une autorité très élevée. Et tout cela, nous allons le voir comment Dieu va anéantir toute l'armée et son prince, et le peuple de Dieu ne combattra pas. Voilà en quelque sorte de quoi nous allons méditer, frères et sœurs. Dans notre texte, nous allons diviser notre texte en deux parties. L'anéantissement de toute cette grande puissante armée, du premier verset jusqu'au verset 10. Nous prendrons comment cette armée a été anéantie. Et la deuxième partie, nous prendrons du 11 jusqu'à 16, ça sera le cleaning, le nettoyage, la purification, parce que Dieu voudrait que son peuple soit saint, dans un environnement saint. Il va dire, faites un grand nettoyage. Voilà, frères et sœurs, répondons à ces trois questions. Est-ce que ce passage m'apprend-il quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Deuxième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Entre les personnages, l'armée étrangère et aussi l'armée de Dieu, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et notre dernière question, la question de tous les jours, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans le texte? Voilà, frères et sœurs, de quoi nous allons parler. Nous pouvons maintenant demander la parole. Commençons vers le commencement du premier verset, descendons jusqu'au verset 10, et puis nous prendrons dans la deuxième partie de notre temps, nous prendrons la conclusion du 11 jusqu'à 16. C'est vraiment ce grand nettoyage. Voilà, frère peuple de Dieu, nous pouvons maintenant demander la parole. C'est un texte qui nous enseigne les tactiques du combat. En tant qu'armée de Dieu, en tant que peuple de Dieu, comment nous devons, nous, quel exemple nous pouvons prendre de ces peuples? Nous commençons avec notre sœur Ruth. Tu as la parole, ma sœur.
Bonsoir, merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Est-ce que je peux poser?
Oui, je vais te donner la question, la deuxième. J'aimerais qu'une personne qui partage commence. Tu gardes la question, je vais revenir à toi. Je vais donner à maman Christine de commencer.
Merci, Pasteur Célé, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de répondre à la question. Ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père. Quand nous voyons notre texte, bien-aimé, c'est rempli de j'ai. Nous avons, j'ai compté juste, disons, première page jusqu'au deuxième, n'est pas terminé. Il y a déjà dès le premier pas jusqu'au verset, ou disons du verset 1 jusqu'au verset 8, nous avons 12 G. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu le Père qui est en train de parler. Et quand c'est lui qui parle, l'Éternel des armées, donc ce qu'il a dit là doit se réaliser nécessairement. Et ici, c'est quand nous voyons c'est rempli de G, j'en veux à toi, Gog. Je t'entraînerai, je te ferai monter, il y a des verbes, je t'amènerai, je t'abattrai, tu tomberas. Donc, quand nous voyons, bien-aimés, nous voyons que Dieu a décidé, c'est Og qui va utiliser comme ce roi ici et toute son troupe et tous ceux qui sont avec lui qui va utiliser pour punir comme une verge, pour punir son peuple. mais il va aussi retourner contre l'objet qu'il a utilisé pour punir, pour dire encore que, bien-aimé, je dois faire très attention d'être utilisé par Dieu pour punir un enfant de Dieu, parce que après ça, ça sera mon tour que je vais être puni. Amen.
Amen. Merci beaucoup, maman Christine. Nous commençons vraiment pour voir les pronoms personnels. J'ai montre vraiment un engagement de la personne qui veut faire quelque chose. Il y a une grande action. Donc même les verbes utilisés, ce sont les verbes vraiment d'action pour anéantir cette armée ennemie au peuple de Dieu. Merci beaucoup. Ma sœur Ruth, tu peux poser la question maintenant.
Ok. Merci pour la parole. Je voudrais savoir, il y a certains événements dans la Bible qui sont en début mais qui évoquent la fin des temps et d'autres qui sont à la fin qui évoquent le début des temps. So, je voulais savoir si le Gog et le Magog dont on parle ici, est-ce que c'est ceux qui ont été cités dans le livre d'Apocalypse, ceux que le Seigneur, quand le Seigneur va revenir, il va vaincre cette armée-là. C'était juste pour ça.
Merci beaucoup pour la question. C'est une question pertinente parce que ce personnage est cité aussi dans l'Apocalypse et nous pouvons donner la parole à l'Assemblée qui va intervenir pour répondre à notre sœur. Mais d'emblée, j'ai dit tout ce que le Seigneur est en train de faire avec son peuple, même si c'est le présent, ça a toujours une leçon vers l'avenir de ce qui se fera. Ici, nous sommes en train de voir un combat, et dans l'Apocalypse, on nous montre comment le règne de Dieu s'établira, comment il y aura la victoire sur les nations, sur le monde de ténèbres, et que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont dans le monde de ténèbres. Donc ici, ce sont effectivement les rois qui ont vécu, et que nous dirons que c'est aussi en même temps une leçon pour nous dire tous ceux qui règnent aujourd'hui, qui ont une certaine grande autorité d'apparence, bien sûr, dans le dernier temps, cela, quand le règne de Dieu va s'établir, ils verront qu'ils n'avaient vraiment pas de puissance. Voilà, dans un premier temps, ce que nous pouvons dire et le peuple de Dieu qui sont peut-être en train de fouiller les Écritures quand je parle, c'est comme ça qu'on fait en fait le partage. Quand un problème est posé, le problème est posé à toute l'Assemblée et en ce moment-là, en tant que Béréen, on doit regarder les Écritures, on doit aller en Apocalypse, on doit aller pour réellement que vers la fin de notre méditation, nous puissions avoir réellement la réponse à cette question qui est posée. Voilà, merci beaucoup pour la question, ma sœur. Tu vas nécessairement avoir une réponse pendant la méditation. Je prends le premier verset, frères et sœurs. Je vois le prophète qui reçoit un message de la part de Dieu. Quand le prophète parle d'une façon générale, c'est pour parler au peuple de Dieu. Mais ici, dans notre texte, il va recevoir un message de Dieu, mais ce n'est pas pour parler au peuple de Dieu. C'est pour parler à un roi païen, pour parler à un roi avec toute son armée païenne. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? La leçon que je tire, c'est que Dieu, il est le Dieu qui règne sur ceux qui connaissent Dieu. Il est même le Dieu qui règne sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela que nous allons voir, il va même utiliser dans le verset 2 des verbes comme « j'entraînerai, je te conduirai ». Et nous savons que c'est Dieu qui conduit son peuple. Mais un roi païen, Dieu va les conduire aussi. Et Dieu, quand il va les conduire, c'est pour l'entraîner jusque dans les territoires d'Israël. Voilà comment Dieu agit. Le Dieu qui a agi dans les combats avec ses rois Gog, c'est le Dieu qui continue à agir avec nous aujourd'hui. Les menaces contre un roi païen, contre un peuple païen, et il pouvait continuer ces mêmes menaces sur son propre peuple, le peuple d'Israël. Non, il est un Dieu souverain. Il est il n'a de compte à rendre à personne. Quand il voit que telle personnalité a dépassé des limites, il est capable d'agir. Même aujourd'hui encore, il est capable d'agir. Il est capable de parler à son peuple, à son serviteur, pour aller dire un message à un tel roi païen. Aujourd'hui encore, il peut le faire. Il est un Dieu qui règne sur ceux qui le connaissent. Il est le Dieu qui agit sur ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, nous continuons. Je n'ai pas encore de demande de parole jusqu'à présent. Les textes, je pense pas que c'est un texte qui est difficile à comprendre, mais nous continuons le partage. Voilà, je vais donner la parole à notre frère Thomas, s'il vous plaît.
Oui, bien-aimé, je vois dans la première partie ici, le Seigneur qui décide de venger Israël, alors que Israël, dans la réalité, c'est une petite force de rien du tout par rapport à ce puissant Gog, mais l'Éternel vient intervenir, c'est comme en deux chroniques, quand Josaphat est attaqué, il est allé au temple et il a amené la lettre de menace et le peuple a gêné et l'armée a gêné, tout le monde a gêné. Et le Seigneur a parlé, le combat n'est pas votre, il est le mien. Et quand ils sont allés à la guerre là-bas pour se présenter, l'ennemi se sont tués entre eux. Ils se sont opposés entre les armées et quand ils ont fini, ils ont commencé à faire du mal. Et finalement, la victoire était à Israël. Donc, je vois ici notre Dieu réellement, il combat pour ses enfants. Je vois ici un Israël vraiment complètement un peuple qui appartient à Dieu pour lequel Dieu combat. C'est comme si le Seigneur est en train de dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il n'a pas épargné Jésus, il l'a donné pour moi. Qu'est-ce que d'autre il ne va pas me donner? Il est ma sécurité, il est mon défenseur et il a ma haute, il est aussi ma haute retraite. C'est ça que je retire dans cette partie quand je vois comment Dieu planifie d'attaquer l'ennemi d'Israël parce qu'il veut montrer que c'est son peuple. Moi aussi, je suis son peuple. Et il a donné Jésus pour moi. Merci.
Merci. Merci, Papa Thomas. Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour nous, qui sera contre moi, qui sera contre nous? Voilà ce que nous sommes en train de voir à une armée puissante, très puissante, mais le peuple de Dieu ne va même pas combattre. Merci pour le message. Papa José, tu as la parole.
Merci beaucoup, pasteur. Je prends le verset 3 et 4. Et le verset 3. Dieu, notre Dieu, dit ouvertement, à ce roi-là. Au verset 2, comme l'a montré le modérateur, il a conduit ses rois de son pays vers Israël. Et quelque part, au verset 3, il dit, je te frapperai. Alors, toi, et ton armée, et tes nombreux alliés, vous trouverez la mort sur les montagnes d'Israël. Et puis, on voit venir les oiseaux et les bêtes sauvages pour manger les cadavres. Bien-aimé, Dieu parle ici avec autorité, sans crainte d'être contredit ou crainte, puisque là, ce roi est très bien armé. Il y a d'abord son armée et ensuite les armées de ses nombreux alliés. Donc, ce n'est pas pour rien que lorsqu'on va parler de du feu qui viendra après, que les enfants d'Israël ne manqueront pas du bois, ce sera pendant 7 ans, c'est parce que c'était énorme. Il y avait beaucoup d'armées là-bas. Mais Dieu dit clairement que je veux te frapper. En quelque sorte, il a dit, malgré tes nombreuses armées, je veux te frapper. Bien-aimé, notre Dieu, il est réellement au-dessus de tous les dieux ou de toutes les forces ou de toutes les nations. Toutes les nations réunies ne peuvent pas tenir devant Dieu. Comme ici, Dieu il dit avec autorité, je vais te frapper. Frappez ton armée, frappez aussi les armées de tes nombreux alliés. Je ne sais pas quelle était la réponse de ce roi, sinon il aurait pu tout simplement s'excuser devant Dieu. Ce n'est pas la peine que j'aille, tue-moi. Mais comme il était entêté, et comme c'était le plan de Dieu pour montrer à Israël que son Dieu est le vrai, ce roi est allé. En un mot, notre Dieu peut briser toutes les chaînes.
Amen.
Peut nous mettre dans une situation impossible selon nous. Mais notre Dieu va briser cela. Notre Dieu va briser cette situation impossible parce que il est au-dessus de tout cela. Ainsi, nous devons tout simplement lui faire confiance. Merci.
Merci, Papa José. Notre Dieu peut briser toutes les chaînes. Le peuple d'Israël se trouvait dans une situation quasiment impossible à résoudre. Devant une armée très, très armée, très super armée. Mais Dieu a décidé, je vais vous anéantir, je vais avait comme armement. Et là, vraiment, nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Qu'est-ce que nous avons comme chaîne maintenant? Qu'est-ce que nous avons comme combat peut-être en face des gens très puissants, des gens très hautains, des gens, notre Dieu, c'est le Dieu qui prend soin de son peuple dans sa petitesse, dans sa faiblesse, mais Dieu est au-dessus de tout. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à maman Christine encore, s'il vous plaît.
Oui, merci, Pasteur Céleste, pour la parole. Bien-aimé, c'est au verset 3 et 4 où je suis aussi, mais je veux prendre ça sur le plan spirituel, bien-aimé. Nous voyons ici que ce roi, Gog, avait vraiment des armes puissantes, comme on dit, mais ces armes puissantes, des armes puissantes, et ces armes ne pouvaient pas jouer un rôle. Comme dit la parole de Dieu, toutes les armes forgées contre vous, c'est sans effet. Pourquoi? Parce que c'est à Dieu de donner. Dieu dit qu'il va abattre. C'est comme ça spirituellement qu'il détruit les armes de l'ennemi. L'ennemi ne sait pas manipuler ses armes malgré qu'il détient cela dans ses mains à cause de la puissance de Dieu. Parce qu'il dit, il agit en tant que le Tout-Puissant. Et qu'est-ce qu'il dit? Pendant que les armes que vous détenez, même à main gauche, main droite, ne va pas fonctionner, vous allez tomber sur les montagnes d'Israël, vous et toutes les troupes qui vous accompagnent. Pourquoi? Donc, c'est parce que Dieu a parlé. Et il dit, les peuples qui seront avec toi, tous ces peuples-là, ils vont tomber. Et votre pâturage, disons, votre corps, tout ce qui est à vous, sera comme le pâturage qui va donner aux animaux des champs, bien-aimés. Moi, je vois ça plus dans l'angle spirituel pour dire que, bien-aimés, voilà comment est-ce que Dieu agit vis-à-vis de nos ennemis. Ils ont des armes, mais devant la puissance de Dieu, ces armes ne fonctionnent pas parce que Dieu détruit la force. D'ailleurs, on dit toutes les armes qu'ils ont, c'est sans effet. Et ça m'a beaucoup encouragé pour dire que je continue à servir ce Dieu puissant. Ça ne va pas fonctionner, pas parce que l'homme est puissant, non, parce que Dieu a parlé. Et comme Dieu a parlé, ce que Dieu a dit va se réaliser. Donc ma puissance, moi, en tant que servante de Dieu, serviteur de Dieu, est dans la parole de Dieu. Donc pour dire que ce soir, nous pouvons lever la tête et dire que tout ce que l'ennemi utilise comme arme sera sans effet à cause de ce que Dieu a dit. Amen.
Amen. Le peuple de Dieu dit amen à cause
amen.
De notre amen. Vraiment capable de faire et d'accomplir. Les dieux des enfants d'Israël, c'est notre Dieu aujourd'hui, devant toutes sortes d'ennemis armés, nous avons les dessus à cause de l'autorité. Et c'est pour cela qu'il va même dire au peuple de Dieu aujourd'hui que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est à cause de l'autorité que Dieu investit ceux qui lui appartiennent. Et nous devons vraiment savoir que Dieu reste le même de génération en génération. J'arrive au verset 7, et je pense au verset 7, que le message qui avait été donné au roi Gog, il y a aussi le message donné au peuple de Dieu en agissant contre le peuple ennemi. Il dit, je ferai connaître mon saint nom. Ensuite, au milieu de mon peuple, je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Si le nom de l'Éternel ne sera plus profané, c'est que le nom de l'Éternel doit être glorifié, élevé, exalté. Et c'est ça que nous devons faire continuellement quand nous méditons avec puissance, avec autorité sa parole, ou même quand nous nous réunissons dans nos célébrations, nous devons apprendre à élever, glorifier, exalter les noms de notre Dieu. Et le nom qui nous est donné aujourd'hui au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus.
Amen.
Voilà le nom que nous devons vraiment exalter des générations en générations.
Amen.
Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Voilà, peuple de Dieu, nous devons vraiment apprendre à célébrer notre Dieu quand nous nous réunissons, même si nous voyons le peuple qui nous entoure, le peuple ennemi, bien sûr, en train de profaner, en train de dire n'importe quoi contre le nom de notre Dieu. Nous, au contraire, nous devons élever, exalter et glorifier ce saint nom. Le verset 9, quand j'ai regardé ce texte du premier verset jusqu'au verset 16, le verset 9, c'est le plus beau verset pour moi. Pourquoi? Parce que il va dire à son peuple que vous allez prendre les armes. Ces gens-là, ils seront anéantis. Ils sont des milliers et des milliers, ils vont amener autant d'armes. C'était pour vous anéantir, mais vous, vous prendrez toutes ces armes. Mais qu'est-ce que vous en ferez? Qu'est-ce que vous en ferez plutôt? Vous allez les brûler. Vous allez livrer toutes ces armes aux flammes. Les petits, les grands boucliers, les arcs, les flèches, les piques, les lances. Et vous allez utiliser cela dans les feux, dans le bois, pour vous chauffer, pour chauffer vos maisons, pour vous préparer. Vous allez faire cela pendant 7 ans.
Amen.
Pour voir quelle était la quantité d'armes que c'est le roi Gog et tous ses alliés avaient amenées. Mais maintenant, la leçon que je tire, frères et sœurs, il n'a pas dit à son peuple de prendre les armes de l'ennemi et de les utiliser. Il a dit de prendre les armes de l'ennemi et de les brûler. Et nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, peuple de Dieu? Au lieu de prendre les armes de l'ennemi pour les brûler, nous prenons les armes de l'ennemi pour les utiliser. Quelles sont les armes de l'ennemi? L'ennemi se présente à nous avec les ruses. L'ennemi se présente à nous avec le mensonge. L'ennemi se présente à nous avec la haine. L'ennemi se présente à nous avec le manque de pardon. L'ennemi se présente à nous avec toutes sortes de maux. C'est ça que l'ennemi se présente aujourd'hui. Et Dieu dit à son peuple, vous prendrez leurs armes. Mais vous n'allez pas les utiliser, vous allez les brûler. Frères et sœurs, nous, c'est vraiment un grand message pour nous en tant que peuple de Dieu aujourd'hui. Toutes les armes que l'ennemi utilise, c'est pas pour le peuple de Dieu. Toutes les armes que l'ennemi utilise, nous devons les brûler. Nous devons brûler toutes sortes de ruses, toutes sortes de malices, toutes sortes de manques d'amour, toutes sortes d'avarice. Avarice n'est pas, par exemple, financer le travail de Dieu à cause de mon égoïsme. C'est une arme de l'ennemi que le peuple de Dieu est en train d'utiliser aujourd'hui. Les critiques, critiquer les autres enfants de Dieu, critiquer les pasteurs, c'est une arme de l'ennemi. Mais aujourd'hui, on en trouve dans le peuple de Dieu en train d'utiliser les armes de l'ennemi. Quelle honte! Les armes de l'ennemi ne sont pas à utiliser. Les armes de l'ennemi sont à détruire.
Amen.
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 Je n'entends pas un grand amen.
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 Alléluia. Merci beaucoup, Papa José. Tiens la parole. Nous pouvons maintenant, pendant que nous partageons la première partie, nous pouvons, en le temps qui nous reste, voir aussi la dernière partie qui est le nettoyage. Papa José, tiens la parole.
Par la deuxième partie, j'ai la voix.
Oui, allez-y.
Au verset 11. Lorsque tout cela sera arrivé, je donnerai à Gog un lieu de sépulture là en Israël. Bien aimé, ce roi, ce grand roi, va être enterré en Israël. Alors que il a son pays, il devait être enterré là-bas. Tout simplement, Dieu a voulu montrer que c'est lui, Dieu, qui peut tout, qui dirige tout.
Amen.
L'homme ne peut pas se choisir un endroit pour être enterré, si vous voulez. Sera enterré en Israël. C'est la honte. C'est la honte. Humilier le cadavre, le corps du roi, est humilié parce que il sera enterré dans un pays étranger. Dans un pays étranger, vraiment, c'est très dommage. C'est très dommage. Son sépulcre là-bas, en Israël. Montrer que l'homme, il est pour rien. Nous pouvons parler comme nous le faisons maintenant, parce que Dieu nous donne cette occasion de parler. Mais quand il refuse ou retire, rien du tout. On ne va pas parler. Et quand on considère toutes ces armes-là, et ce roi sera enterré en Israël, vraiment, c'est très honteux. Notre Dieu est celui qui humilie. Il élève, bien sûr. Ici, il va humilier ce roi. Ce roi sera enterré dans une terre étrangère. Et il se croyait chef, roi suprême de partout. Mais en Israël, un peuple sans muraille pour se protéger, et c'est là-bas qu'il va tomber. Pourquoi? Parce que Israël a un Dieu. Oui, le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Nous devons prétendre que nous avons un Dieu qui humilie. Et c'est à nous tout simplement de nous attacher à ces dieux-là. S'il veut nous élever, il le fait. S'il veut nous abaisser, il le fait. Mais l'essentiel pour nous est de rester attachés à ces dieux-là. Merci.
Merci beaucoup. Nous avons un Dieu, un grand Dieu. Celui qui abaisse, celui qui élève, celui qui est capable de détruire les autres en son honneur, bien sûr. Parce que nous allons le voir en bas. Il veut que son peuple soit purifié. Merci beaucoup. Papa Thomas, tu as encore la parole.
Oui, je voudrais joindre le verset 13, le jour où je serai glorifié, au verset 7 où il a dit, « Moi, Dieu, je ferai connaître mon Saint-Nom au milieu de mon peuple d'Israël et je ne laisserai plus profaner mon Saint-Nom. » et les nations vont connaître que je suis l'Éternel, le Saint d'Israël. Le but pourquoi Dieu délivre, c'est pour que son nom soit connu. Ce n'est pas pour que nous, nous soyons fameux. Ce n'est pas pour que nous, nous soyons célèbres. Mais c'est dans le but que son nom soit connu et glorifié. Je dis, ma conduite, si témoignage, est-ce que ça fait connaître l'Éternel qu'il est saint? Est-ce que ça glorifie son nom? Ou c'est à sa honte? Parce que la Bible dit que je peux bien me comporter dans le monde afin que les gens voient les œuvres que je fais, afin qu'ils glorifient mon Père qui est dans le ciel. Que ma lumière luise parmi les gens du monde, Matthieu 5, 16 va dire. Est-ce que ma lumière luise, est-ce que ma conduite fait connaître le Seigneur et le fait glorifier? Ou les gens se demandent, mais c'est quel Dieu? Si c'est Dieu, c'est comme ça, est-ce que moi je dois croire aussi en Dieu? Ou que ma conduite fait connaître que Dieu est saint et qu'il est glorifié? Ça touche vraiment de voir que Dieu fait tout ça. Il dit, le jour où je serai glorifié, je ferai connaître mon nom. Et mon nom ne sera plus profané. Je fais profaner le nom de Dieu ou je le fais glorifier. Ma conduite, est-ce que ça glorifie Dieu ou ça donne la honte au nom du Seigneur? Merci.
Amen. Beaucoup, est-ce que ma conduite, ça glorifie vraiment Dieu ou ça donne la honte au Seigneur, notre Dieu? Merci beaucoup, Papa Thomas. Je donne maintenant la parole encore à Maman Christine.
Merci, Pasteur Célé, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis aussi à la dernière partie. Je vois ici le Seigneur qui dit, la maison d'Israël les enterrera. Ils vont enterrer le roi et cette multitude. Pour l'objectif, c'est quoi? Afin de purifier le pays. C'est trois fois repris, purifier le pays. Donc, notre Dieu, il tient à ce que l'homme reste dans un environnement sain. Donc, qu'on ne vit pas dans le péché, qu'on soit purifié. Et ce qui je suis touchée aussi de la considération que Dieu a de l'homme créé à son image. Ils ne veulent pas que la dépouille mortelle reste comme ça au vu de tous. Ils veulent que ça soit enterré, comme a dit sa parole dès le départ, que l'homme est tiré de la terre et il va retourner dans la terre. Donc, pour dire que notre Dieu accomplit toujours sa parole. Amen.
Amen. Notre Dieu accomplit et toujours sa parole. Nous bénissons vraiment le Seigneur de ce que nous sommes en train d'apprendre de la façon dont notre Dieu travaille. Merci. Vers la fin de notre texte, nous allons voir quelle coopération le peuple de Dieu va travailler. Ils vont travailler pendant 7 mois, nous dit les Écritures, pour le nettoyage. Donc c'était énorme, cette armée. Ils vont travailler pendant... Mais ce n'est pas une seule personne qui va travailler. Certains vont commencer à circuler dans le pays pour parcourir. Verset 14, par exemple. On va mettre à part quelques personnes juste pour parcourir le pays. Et quand ils vont trouver les cadavres de l'armée de Gog, au verset 15, ils vont faire des repères. Et quand ils vont faire les repères, ce sont les autres qu'on a désignés de notre temps. Ici, on parlera de la Croix-Rouge, on parlera d'une autre, d'un autre service spécialisé pour faire cela. Mais dans la version seconde révisée, on appelle ces gens le fossoyeur. D'autres versions les utilisent même comme le... Ce sont les voyageurs qui parcourent, mais le fossoyeur qui enterre. Donc, ce n'était pas les mêmes personnes qui faisaient le même travail. Et qu'est-ce que j'apprends, j'apprends dans cette dernière partie, pendant le temps où nous sommes en train de préparer le camp biblique, comme à l'écran, pour ceux qui ont l'écran, ils ont vu que le camp biblique arrive, il nous reste jour J, moins 58, donc moins de 2 mois maintenant, 1 mois et quelques jours. C'est pas une seule personne qui doit travailler. C'est la répartition des tâches et des rigueurs dans le royaume de Dieu. Et quelques-uns font tel travail, d'autres font tel travail. Tout cela, c'est pour la cohérence de l'œuvre de Dieu dans le royaume. Et je sais que ces gens, nous pourrons dire, c'est un exemple à suivre. Ceux qui parcourent, et dès qu'ils ont trouvé, ils font les repères, pour que ceux qui sont désignés à cette tâche fassent leur travail et ils vont passer, ils vont faire leur travail de purification. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, nous sommes en train d'atterrir. Et vraiment, nous sommes dans le combat. On peut accepter, on ne peut pas accepter, mais le combat est réel contre les puissances des ténèbres. Ils sont en train d'attaquer, d'utiliser bien sûr les hommes, d'attaquer le peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est une grande réalité. Rappelons-nous comment Dieu pouvait dire à Moïse, de dire au peuple d'Israël, quand l'ennemi était venu, ils étaient vraiment à cul de sac. D'un côté l'ennemi, de l'autre côté l'eau. Il a dit au peuple, dites au peuple, que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est ça que nous sommes en train de voir dans notre texte, comment il a combattu pour son peuple. Si nous sommes le peuple de Dieu et que nous sommes là ce soir connectés sur le plateau ou même à la radio, nous devons savoir, ou même ceux qui vont écouter le message en différé, nous devons savoir que notre Dieu reste le même. Il continue à combattre pour son peuple encore aujourd'hui. La purification est de rigueur. On ne peut pas se purifier quand on fait les yeux de l'ennemi. Hein? Je suis en train de voir quand l'ennemi attaque le peuple de Dieu, le peuple de Dieu rétorque avec des injures, avec d'autres choses, cela c'est pour faire les yeux du peuple de Dieu. Et le peuple vers les yeux du diable. Nous devons, d'un côté, nous attendons totalement du Seigneur, d'un autre, nous nous purifions pour être vraiment du côté du Seigneur. Et le Seigneur est vraiment fidèle pour combattre pour son peuple. Pour clôturer, je voulais que nous puissions lire les commentaires dans le pain du jour, parce que les commentaires dans le pain du jour donnent en même temps, dans l'introduction, la réponse à notre sœur Ruth. Quand nous allons en Apocalypse chapitre 20, à partir de verset 8, on va parler de Magog, on va parler de Gog, et c'était une vision que Jean avait vue. Et ce que nous sommes en train de méditer, la réponse se trouve dans les commentaires dans le pain du jour. Sœur Ruth, est-ce que tu peux nous lire les commentaires dans le pain du jour?
Justement, je n'ai pas le pain du jour.
Ok.
Je n'ai pas pu avoir le livre.
Ok. Ok, prochainement, c'est bien d'avoir ça. Le pain du jour était arrivé beaucoup, beaucoup à Ottawa. Mais peut-être que tu n'as pas pu avoir ça. Mais si tu seras au camp biblique, tu pourras avoir le pain du jour. Ok. Alors, qui peut nous lire, Papa Médard, tu peux nous lire le pain, hein, le, le commentaire dans le pain du jour. Améda, c'est possible? Il dit que Papa Améda ne nous suit pas. Qui peut lire?
Oui.
Ah,
oui.
Okay, allez-y. Allez-y.
Oui. Oui. Une question d'honneur. Cette scène macabre antérieurement décrite.
Où est-ce que tu lis? Dans...
Non, c'est lis pas.
Dans... Je lis dans Paix du jour.
Dieu a le dernier mot. Mercredi, oh. les commentaires de mercredi.
Ah oui, oui. Oui, oui, c'est vrai. Oui, je m'excuse. Dieu a le dernier mot. Le prophète Ézéchiel révèle une des grandes batailles de la fin des temps dont nous pouvons tirer des enseignements pour notre vie chrétienne. La puissante armée de Gog qui tente d'envahir Israël est totalement détruite par l'Éternel des armées de façon miraculeuse. Dieu combat pour son peuple. Les ennemis d'Israël sont désarmés et décimés, contrairement à ce que nous pensons parfois. Dieu n'abandonne pas ses enfants à la merci des méchants, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Il est l'Éternel des armées qui combat pour nous et renverse les situations, même désespérées, pour montrer à tous qu'il est le véritable maître de l'univers. Dieu détruit les armes ennemies. L'Éternel des armées, un grand stratège militaire, dit à son peuple d'anéantir par le feu les armes de l'ennemi pour prévenir un éventuel retour en force. De même, pour avoir de répit dans le combat spirituel, ne restons pas toujours sur la défensive. Prions aussi pour l'anéantissement des armes utilisées par les méchants. Dieu veut un environnement sain. Pour éviter la pollution de l'environnement, Dieu ordonne à Israël d'enterrer les dépouilles des ennemis et procéder à une purification méticuleuse. Après une délivrance, c'est de notre responsabilité de travailler à maintenir une vie sanctifiée pour que la présence de Dieu continue d'être manifeste. À retenir, dans nos combats spirituels, matériels et financiers, faisons confiance à Dieu, car il contrôle toutes choses, il prend notre défense face à l'ennemi. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup pour la lecture, Papa Médard. Les annonces, nous saluons les frères et sœurs qui sont au Québec, qui sont en Alberta, qui sont en Massachusetts, qui aiment les Écritures et qui se réunissent chaque jour avec nous. Donc, nous sommes à jour J-58. Vous qui êtes à la radio, si vous voulez participer avec nous au camp biblique en Belgique, les portes sont encore ouvertes, pas encore fermées, les inscriptions. Vous pouvez juste aller dans notre site. Sur événements, vous cliquez, vous verrez un endroit pour vous inscrire et nous aurons vos coordonnées et nous vous donnerons tous les détails du camp biblique en Belgique à partir au mois de juillet, du 31 juillet au 2 août. Voilà, frères et sœurs. Je vais demander à notre frère Thomas de prier. Frère Thomas, nécessairement parmi le peuple de Dieu, il doit y avoir des situations désespérées, comme le cas du peuple d'Israël. Des fois, nous ne savons quoi faire. Nous avons besoin vraiment que Dieu intervienne comme il a intervenu pour son peuple. Ça, c'est un deux. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui, beaucoup dans l'Église du Seigneur, veulent utiliser les armes de l'ennemi. Et les armes de l'ennemi elles ne sont pas faites pour être utilisées, elles sont faites pour être détruites. Priez vraiment pour nous, pour que Dieu nous donne la lucidité spirituelle de voir, ça c'est l'ennemi, ça c'est l'arme de Dieu que je dois utiliser. Prions avec notre frère Thomas.
Tendre Père, merci pour cette étude qui montre deux camps, le camp du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, et le camp de l'ennemi. L'ennemi a fait des plans, l'ennemi a eu le projet de venir détruire ton peuple, mais toi, qui t'es levé, qui a dit que tu vas le détruire, parce que, Seigneur, tu dois défendre ton peuple afin que ton nom soit connu, afin que tout le monde reconnaisse que tu es pour Israël, afin que tout le monde puisse sanctifier ton nom et que ton nom ne soit plus profané, mais au contraire glorifié. Pardonne-nous là où nous avons utilisé les armes de l'ennemi. Contre nos propres frères, nous nous sommes levés, nous avons parlé du mal contre des frères, nous avons fait des coups bas contre nos propres frères ou sœurs, nous avons, Seigneur Dieu, combattu les mêmes gens qui auraient dû être ceux que nous devions aimer. Pardonne-nous. Puisque la parole de Dieu ne dit pas que notre uniforme, c'est la Bible, notre uniforme, c'est Alléluia, mais notre uniforme, c'est quand nous nous aimons les uns les autres, les gens vont remarquer que nous t'appartenons. Tendre Père, donne-nous l'amour pour toi. Nous voulons t'aimer, Seigneur, et ne pas, Seigneur, profaner ton nom, mais au contraire, chercher à faire glorifier ton nom par de bonnes œuvres, Seigneur Dieu, qui luisent devant les hommes. Et ils vont connaître que nous sommes le tien. Nous détruisons les œuvres du diable, Seigneur, au nom de Jésus, parce que la Bible dit le Seigneur apparut pour détruire les œuvres du diable, au Seigneur, détruire les œuvres de l'ennemi au milieu de nous. Donne-nous, Seigneur Dieu, l'amour parmi nous, l'application de ta parole, la crainte de Dieu. Donne-nous, Seigneur Dieu, les ailes de l'Évangile. Donne-nous, Seigneur, la joie de donner de l'argent pour ton œuvre, Seigneur Dieu, le camp biblique, le besoin, Seigneur Dieu, de la tenue de nos réunions, Seigneur Dieu, désormais notre caisse, Seigneur Dieu, désormais le bureau qui se réunit demain, tendre Père, le fonctionnement de FIMES, les méditations, la prière, l'intercession, Seigneur, tendre Père, nous sommes à toi, guéris nos cœurs, guéris nos cœurs, délivre-nous du mal, Seigneur. Viens nous secourir, viens combattre pour nous. Montre que tu es pour nous. Mais nous aussi, nous voulons être, Seigneur, de ton camp. Nous voulons être, Seigneur, des frères et des sœurs, Seigneur, dans le camp de Dieu, opposés au camp de l'ennemi. Nous refusons, au fumet, Seigneur Dieu, d'utiliser les armes de l'ennemi entre nous. Non, nous refusons ça au nom de Jésus. Père, nous prions pour ceux qui sont attaqués, ceux qui sont opprimés, Seigneur, ceux qui ont des problèmes dépassés comme Israël était dépassé par un ennemi fort. Viens au secours, Seigneur Dieu, de tes enfants. Surprends-nous. Viens, Seigneur, combat pour nous. Montre la joie et la grâce, Seigneur Dieu, d'être sous ton contrôle, d'être dans ta parcelle. Bénis-nous. Bénis ton serviteur qui nous a dirigés, Seigneur. Continue à nous donner des stratégies de diriger ton travail avec le Saint-Esprit dans ta parole. Donne-nous, Seigneur, l'autorité qui vient de toi. Qu'il soit aimé, Seigneur, parmi nous. Lui et son épouse, Seigneur, qu'il nous dirige, Seigneur Dieu, et que nous puissions aimer, Seigneur, leur leadership. Bénis chacun de nous qui est venu, Seigneur Dieu des armées. Console nos sœurs. Envoie nos sœurs au mariage. Bénis-nous qui sommes dans le mariage, Seigneur Dieu des âmes. Bénis nos enfants. Soutiens-nous, Seigneur. Fais la différence entre ceux qui méditent ta parole et ceux qui ne la méritent pas. Seigneur Dieu des âmes, bénis-nous, soutiens-nous. Pars avec nous. Console-nous, encourage-nous. Bénis-nous et fais-nous luire ta face, Seigneur, et montre-nous, Seigneur, ta bénédiction. Au nom de Jésus, notre Maître, notre Sauveur et Seigneur, nous avons prié. Amen.
Amen. Merci beaucoup pour la prière. Le texte de demain, c'est la suite de Ézéchiel 39, de 17 à 29. Que la grâce et la paix abondent dans nos maisons. Amen.
Amen. Amen.